Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, la politisation de la politique migratoire. Bonjour Christophe Bertossi.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous y dirigez le Centre Migrations et Citoyenneté. Vous avez publié aux éditions du CNRS, c'était en 2016, La citoyenneté à la française. Alors, en croire ceux qui côtoient l'entourage du président de la République, celui-ci nourrirait depuis quelque temps une obsession pour les questions migratoires. Emmanuel Macron, écrit Arthur Nazaret dans le JDD, est convaincu que le thème de l'immigration va prendre de l'ampleur avant les prochaines présidentielles. Un de ses proches l'assure, il fait une fixette sur l'immigration. Alors, il est vrai que les indices ne manquent pas. Dans sa lettre aux Français, début 2019, le chef de l'État demande ainsi à ses compatriotes s'il souhaite que le Parlement fixe des objectifs annuels en la matière. Un mois plus tôt, au pic de la crise des Gilets jaunes, il tient ses propos. « Je veux que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration, il nous faut l'affronter. » Conséquence visible, chaque année désormais, le Parlement, ce sera à partir du mois de septembre, débattra des orientations de la politique d'immigration et d'asile. L'annonce a été faite par le chef du gouvernement lors de son récent discours de politique générale. Depuis une quarantaine d'années, la politique migratoire fait l'objet d'une forte politisation en France. La fin du plein emploi et l'émergence du Front National ont contribué à faire de ce sujet un enjeu permanent des rendez-vous électoraux, sur fond d'inquiétude identitaire, sans qu'il soit toujours évident d'ailleurs d'identifier clairement ce qui distingue les gouvernements de droite des gouvernements de gauche en la matière. Alors la politisation de la politique migratoire, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Christophe Bertossi, puisque vous travaillez pour l'Institut français des relations internationales, que vous regardez ce qui se passe à l'étranger. Est-ce qu'on peut déjà dire que chaque pays a une politique migratoire ?
En tout cas, chaque pays se pose cette question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, que ce soit en Europe ou sur le continent nord-américain, de pays qui, un, ne se posent pas la question de la place de l'immigration dans leur société, et deux, n'en font pas un thème central du débat public et politique, avec des variations, parce que chacun a son histoire, avec des incompréhensions mutuelles aussi, il n'y a qu'à voir la situation aujourd'hui en Europe, et puis avec des effets qu'on retrouve au moment des élections, regardez l'Italie, regardez l'Autriche, mais ça concerne aussi la France comme l'Allemagne, la montée de partis qu'on appelle populistes et qui jouent ce répertoire identitaire et qui trouvent du coup dans l'immigration un terreau fertile pour pouvoir le faire. Donc c'est lié, je crois, alors vous avez déjà raison, il y a un déjà-vu dans tout ça, hein, vous l'avez évoqué dans l'introduction, on entend des choses qui ne sont pas tout à fait nouvelles et on n'est pas dans une séquence qui est inédite par rapport à ce qu'on a déjà connu. Et je crois que ce que le président Macron est en train de faire, sa propre analyse, qui est une analyse politique, ressemble beaucoup à ce qui a déjà été fait dans le passé, en tout cas au cours des trois dernières décennies en France.
Alors quelle est la part d'inédit et quelle est la part de redite dans ce qu'a annoncé le Premier ministre le 12 juin dernier dans son discours de politique générale? Vous allez nous le dire dans un instant, Christophe Bertossi, mais pour l'instant on écoute Édouard Philippe.
Combattre les peurs du pays, montrer que nous gardons le contrôle, c'est avoir le courage d'affronter sans fausse pudeur certaines réalités, notamment concernant la pression migratoire. Cette réalité, c'est un nombre de demandeurs d'asile qui a baissé de 10% en Europe l'année dernière, mais qui continue d'augmenter en France de l'ordre de 22%. Si nous voulons bien accueillir, bien intégrer ceux qui rejoignent notre pays, nous devons maîtriser ces flux migratoires. Ce combat est évidemment d'abord européen. Le président de la République l'a annoncé. La France portera dans les prochains mois, avec de nombreux partenaires européens, un projet de refondation complète de Schengen. Nous devrons également prendre nos responsabilités au niveau national. Le droit d'asile est un trésor. Nous y consacrons des moyens en forte hausse. C'est le prix de la fidélité à nos valeurs. Mais c'est aussi pour cette raison que nous devons lutter avec fermeté contre les abus.
Voilà, Édouard Philippe, c'était le 12 juin dernier donc à l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale. Christophe Bertossi, dans ce qu'on vient d'entendre, vous diriez que c'est un discours qui s'inscrit dans la continuité de la politique migratoire de ces dernières décennies, ou bien est-ce qu'il y a des effets de rupture ?
Je pense que pour vraiment comprendre l'enjeu de ce qui est en train d'être dit sur les politiques migratoires par le Premier ministre, par le Président de la République, par le ministre de l'Intérieur. Il faut commencer par mettre dans la discussion une ambiguïté cardinale qui définit ce qu'est au fond un discours sur les politiques migratoires. L'ambiguïté, c'est que c'est censé être un discours qui définit une ligne de conduite, une ligne d'action, donc une mise en œuvre d'une politique avec ses outils, ses instruments. Mais de l'autre côté, c'est beaucoup plus souvent un discours qui s'adresse à l'opinion publique. Donc c'est beaucoup moins un discours technique pour résoudre un problème qu'on aurait identifié lié au contrôle des frontières qu'un message lancé à l'opinion publique, en l'occurrence à l'opinion française. Et je crois que la phrase clé de ce extrait qu'on vient d'entendre, elle est dans ce que Édouard Philippe appelle « montrer qu'on garde le contrôle ». Voilà. Alors ce « montrer qu'on garde le contrôle », si vous voulez, constitue une grammaire du discours politique français constant depuis le milieu des années 80. Tout, d'abord, on peut remarquer que sur les 30 dernières années, il y a une inflation législative sur la question migratoire. On a eu l'année dernière encore une loi sur la question de l'asile et de l'intégration des réfugiés, en nous promettant que ça serait vraiment la dernière loi, alors qu'il y en avait eu juste quelques mois auparavant, etc. Et là, on nous annonce que, vraisemblablement, il y en aurait une nouvelle. Cette accumulation de textes législatifs pour essayer de résoudre le problème migratoire, il a comme effet de rendre de plus en plus complexe la législation en matière migratoire, puisque finalement, il y a tellement de textes que plus personne s'y retrouve.
En tout cas, on peut dire, Christophe Berthe aussi, que alors cette grammaire et le choix du vocabulaire sont tout à fait déterminants pour comprendre ce que serait, alors si ce n'est la doctrine, mais enfin en tout cas l'approche que peuvent avoir les différents gouvernements de cette question.
Je crois que la constante, c'est de faire de la question de l'immigration une question d'identité. On aurait pu imaginer plein d'autres formes de cette problématique de l'immigration. On aurait pu en faire une question du travail, par exemple. Et on sait que le travail est une question essentielle si l'on veut vraiment aborder très sérieusement la question du contrôle des frontières et de l'arrivée des immigrés en France. On aurait pu en faire une question d'évolution sociale et de progrès social dans la société française, parce que les migrants et les générations issues de l'immigration apportent beaucoup, et la France se construit autour de ça. La France est un pays d'immigration depuis 2 siècles, donc on est sur cette tradition-là, mais c'est pas du tout ça qu'on utilise, c'est pas là du tout là-dessus qu'on construit le discours. On le construit sur une évidence qui serait que l'immigration pose un problème d'identité.
Alors, il y a d'ailleurs eu un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, hein. C'était en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy arrive à l'Élysée.
Absolument. Et là encore, on voit que, au fond, toute la réflexion publique sur le problème de l'immigration en France, je l'ai dit, un pays qui est depuis 2 siècles un pays d'immigration, il y a une évolution de la population immigrée en France, mais ne nous alarmons pas, il y a quand même une constante qui est très raisonnable. On est sur des flux qui fluctuent, mais grosso modo, lorsqu'on prend une perspective, on voit quand même plutôt une stabilité. Ce qu'on remarque par contre, c'est que la France a beaucoup plus de descendants d'immigrés que d'autres pays. Donc ça montre que le temps est là et il est derrière. Mais l'idée que l'immigration soit un problème, si vous écoutez vraiment ce qui est dit, c'est pas un problème de chiffres, c'est pas un problème de nombre de people, c'est pas le volume de la population qu'on va accueillir qui fait problème. C'est un discours qui nous explique que le problème, c'est les pays dont ils viennent, c'est leur origine. Je dis pas que les politiques migratoires sont racistes, mais je dis que on construit le problème de l'immigration comme un problème d'identité, en se focalisant sur le pays d'origine et la culture ou la religion à laquelle on ramène ces populations.
Alors c'est pas ce qu'on peut entendre, cela dit, dans le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Lui, alors, il évoque d'abord ce décalage entre les chiffres des demandes d'asile en France par rapport à ce qu'ils sont dans le reste de l'Europe, en disant chez nous ça monte, ailleurs c'est en train de descendre. Il parle de pression migratoire. Est-ce que le discours du chef du gouvernement, Christophe Berthe aussi, vous paraît être en phase avec la réalité, ou bien est-ce que vous y voyez un décalage?
Par rapport à ce que je vous disais en introduction, il y a toujours un décalage, nécessairement. Lorsqu'on tient un discours d'opinion sur un objet technique, nécessairement, il y a un décalage entre le récit qu'on porte dans son discours et les problèmes qui sont à résoudre sur le terrain. Donc, il y a un décalage. L'autre élément, sans doute, de constance qu'il y a dans le discours du Premier ministre par rapport à la façon dont je disais que le discours sur l'immigration est un discours sur l'identité depuis 30 ans en France, c'est cette notion que, pour bien accueillir, il faut mieux maîtriser les flux. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi. Si vous relisez les débats à l'Assemblée nationale autour de la loi Pasqua en 1993, vous allez entendre exactement les mêmes arguments. C'est qu'on ne peut plus intégrer les populations immigrées, voire issues de l'immigration, c'est dans ce discours-là, dès lors qu'on n'arrive pas à maîtriser les flux migratoires. Et le deuxième argument, si vous voulez, derrière ce constat, il est que on doit toujours faire une nouvelle loi, je vous parlais d'inflation législative, parce que la loi précédente a échoué à contrôler nos frontières. Donc c'est toujours un double discours aussi qui dit qu'il y a urgence à résoudre un problème, et on est dans une situation où nous allons être les premiers à réussir enfin le contrôle de nos frontières. Donc il y a vraiment un effet très fort dans ce discours-là.
Mais ça, Christophe Bertossi, est-ce que ça n'est lié qu'à des considérations électoralistes, c'est-à-dire l'idée d'avoir un discours dont on pense qu'il est adapté à la demande de l'électorat, ou bien est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être le fait que si ce décalage entre les faits et le discours est avéré, le fait peut-être que les politiques ne sont peut-être pas toujours bien informés de ce qu'est la réalité des migrations, ce qui sera peut-être résolu d'ailleurs avec ce débat annuel au Parlement sur la politique migratoire française. J'imagine que si on annonce ce débat annuel, c'est qu'il n'existait pas aujourd'hui, donc il n'y avait peut-être pas de véritable débat sur la réalité de ce phénomène.
Alors, sur le déjà vu, quant au débat, oui, il y a un texte de loi qui a été voté alors que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, qui prévoit ce débat annuel au Parlement. Donc on a déjà des outils, c'est simplement que le débat n'a pas lieu. Le débat sur l'immigration et sur la politique migratoire, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour la vie démocratique d'un pays, bien sûr. Il faut que les citoyens, que le débat public, que les responsables politiques discutent des options qui sont sur la table et des échelles aussi de prise de décision, parce que la politique nationale n'est évidemment pas la seule ou unique à pouvoir résoudre un problème. Il faut l'inscrire dans le contexte européen, voire dans une gouvernance mondiale des migrations.
Donc qu'il y ait débat au niveau du Parlement, ça vous paraît tout à fait légitime?
Ça me paraît tout à fait légitime, à condition que, au nom du débat démocratique, on ne perde pas la raison et on n'en vienne pas à dire n'importe quoi. Donc il faut mettre de très nombreux garde-fous. Rappelez-vous la discussion qu'il y a eu autour de la signature du pacte de Marrakech en décembre 2018, ce pacte qui est un outil des Nations Unies pour créer plus de concertation internationale, qui n'est pas un texte contraignant, mais qui permet aux États d'aller piocher des outils pour un contrôle régulé, ordonné, de l'immigration régulière et pour une lutte contre l'immigration irrégulière. On a fait de ce pacte en décembre dernier un pacte avec le diable, en disant que si la France le signait, si d'autres pays le signaient, ça en était fini, la souveraineté nationale, qu'on allait ouvrir les frontières et que la théorie du grand remplacement allait devenir une réalité. Et il y a un pays comme la Belgique qui a vu son gouvernement tomber sur cette question. Donc le débat démocratique doit avoir la capacité d'être à la hauteur des enjeux liés aux migrations, mais on ne doit pas en faire n'importe quoi de ce débat.
Est-ce que ce débat, alors justement, fut davantage à la hauteur il y a quelques décennies en France, Christophe Bertossi? Je vous propose d'écouter une archive qui date de 1976. Le 27 juillet de cette année-là, s'exprime sur TF1 un certain Paul Dijoux. Il est secrétaire d'État auprès du ministère du Travail, c'est important, et il est en charge des immigrés. C'est lui qui va mettre en place la politique du regroupement familial.
Bien, le souci du gouvernement est de faire que les immigrés bénéficient peu à peu de l'égalité la plus large, pratique, dans les faits, avec la population française. Et en particulier en ce qui concerne leur droit à vivre normalement chez nous, avec leur famille. Aujourd'hui, nous lançons une politique de l'immigration familiale qui va permettre aux immigrés de faire venir leur famille lorsque ces familles pourront convenablement s'insérer en France, lorsqu'elles auront un logement, lorsqu'elles pourront bénéficier d'un revenu stable. Et c'était indispensable pour répondre en particulier à l'attente d'un certain nombre d'élus locaux qui veulent que les immigrés vivent convenablement en France, mais qui veulent aussi que cette insertion soit possible, correspondre à des possibilités réelles de logement et de vie normale parmi nous.
Donc cette politique sera basée sur un certain contrôle quand même?
Oui, à la fin de la politique spontanée, anarchique de l'immigration dans le monde des travailleurs, correspond une immigration organisée, maîtrisée, dans le domaine de l'immigration familiale. Ne viendront que les familles qui pourront être convenablement insérées dans nos villes.
Bon, alors Christophe Bertossi, je rappelle, hein, vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales, vous y dirigez le Centre Migrations et Citoyenneté. On vient donc d'entendre Paul Dijoux, secrétaire d'État auprès du ministère du Travail en charge des immigrés en 1976. Le président de la République de l'époque, c'est Valéry Giscard d'Estaing. On est, semble-t-il, dans une approche radicalement différente de la politique migratoire. Là, la question de l'identité, elle apparaît pas du tout. C'est le travail. C'est la main-d'œuvre, en fait, qui est...
76, c'est une période charnière, évidemment, du rapport entre les politiques françaises et la question migratoire. C'est le moment où ça devient un enjeu pour l'État. Avant 1974, pour le dire vite, il y avait une gestion de l'immigration, qui était, comme vous venez de le dire, une immigration de main-d'œuvre, donc plutôt des hommes seuls travaillant sur des sites pour reconstruire l'économie française, sans famille. C'était ça, la réalité migratoire à l'époque. Et jusqu'en 1968, d'ailleurs, il y avait une liberté de circulation dans le bassin méditerranéen entre l'Algérie et la France métropolitaine. Et cette liberté de circulation, au fond, permettait aux employeurs d'aller chercher directement la main-d'œuvre dont ils avaient besoin en Algérie, quitte à régulariser simplement a posteriori la situation de ces travailleurs avec l'administration centrale. Donc la régulation, la gestion de l'immigration à l'époque, avant 1974-76, c'est une gestion administrative du sujet. Personne n'avait l'impression que l'immigration était un sujet politique. Pourquoi ? Parce que tout le monde pensait simplement, et les migrants eux-mêmes, que ces migrants allaient rentrer chez eux une fois le travail fait. 1974, on a une fermeture de l'immigration de travail, donc on va changer considérablement la physionomie, si vous voulez, du rapport entre les politiques françaises et l'immigration. On veut fermer les frontières en raison d'un chômage, enfin c'est l'analyse qui est faite à l'époque. Et on se rend compte pourtant que l'État, le gouvernement, peut décider d'une politique migratoire en contrôlant les flux, mais il n'a pas la main sur tous les flux. C'est-à-dire qu'il peut très bien dire à des travailleurs immigrés « Ne venez plus en France parce qu'on a décidé de contingenter le nombre d'immigrés venant en France. » En revanche, l'immigration de famille, elle, est un droit fondamental lié à une convention internationale signée par la France. Donc on peut pas, l'État ne peut pas intervenir pour la réduire. L'asile, idem, il est lié aux engagements de la France dans des grands traités internationaux, à commencer par la Convention de Genève. L'immigration des étudiants, actuellement, vous voyez l'importance que ça prend dans la compétition mondiale entre les marchés de la recherche et de l'enseignement supérieur entre les différents pays, et la France décroche un petit peu, donc on a besoin d'être un pays qui attire les étudiants étrangers. Reste une immigration de travail, mais qui est tout à fait minime aujourd'hui en France. Donc cet exemple nous montre que lorsqu'on veut mettre en place une politique migratoire, on n'a pas la main sur tous les flux.
Et à quel moment, Christophe Bertossi, est-ce que ça devient un problème, l'immigration, c'est-à-dire problème qui menacerait ou en tout cas remettrait en cause ce que c'est que l'identité française? C'est quoi? C'est les années 80?
Oui, je pense que si vous voulez marquer un repère sur le basculement et cette fameuse politisation des politiques migratoires dont on parle maintenant, c'est les élections municipales de Dreux en 1983.
C'est le Front National qui fait un score plus de 10%, je crois.
Oui. C'est le succès du Front National à d'autres élections européennes, celle de 1984, et c'est l'entrée en 1986 de 35 députés frontistes ou leurs alliés. Et cette montée en puissance du Front National sur la scène politique française a complètement réorganisé à la fois la compétition entre la gauche et la droite parlementaire, et elle a fait de la question identitaire ce thème des Français pas comme les autres, des Français pour les papiers, cette idée que les femmes algériennes, à l'époque c'était beaucoup sur les Algériens, les femmes algériennes venaient sur les rives de françaises de la Méditerranée pour venir accoucher et avoir des papiers et donner la nationalité à leurs enfants. Tout ça a débouché sur la volonté aussi du gouvernement en 86 de réformer même l'accès à la citoyenneté française. Et depuis, donc, cette politisation du débat sur l'immigration, elle tient ensemble la question de l'identité nationale, la question de l'islam, qui a un grand rebourseoir de ce débat-là, et la question de l'immigration, en oubliant que les immigrés sont en France depuis très longtemps, et que lorsqu'on parle des immigrés, la plupart du temps, on parle de citoyens français, d'ailleurs.
Mais est-ce que vous diriez, Christophe Bertossi, que le Front National a créé un problème qui n'existait pas, ou bien est-ce que ce parti a peut-être senti monter quelque chose que les autres partis politiques n'avaient pas été en mesure d'identifier? Parce que s'il y a un succès électoral, c'est bien qu'il y a aussi un discours qui porte dans l'opinion.
Le moment, enfin les années 80 sont un moment de charnière parce qu'il s'y passe plein de choses en même temps sur ce sujet. Vous avez, d'abord il y a la fermeture des frontières à l'immigration de travail, par le droit au regroupement familial, l'immigration se transforme en une présence d'hommes seuls, peu politisés, peu visibles, etc., en une immigration de famille, c'est-à-dire des gens, des hommes, des femmes qui ont des enfants, qui posent la question de l'entrée de leurs enfants dans la citoyenneté française, qui prennent la parole, les enfants se mobilisent, c'est le mouvement Beur, la fameuse marche de 84-83, donc il y a une apparition sur l'espace public, une nouvelle visibilité qui est donnée au sujet. Ça, c'est très important. Et puis, déjà, le souci que, est-ce que finalement un gouvernement national a vraiment le pouvoir de contrôler les choses sur lesquelles il doit intervenir, à commencer par le chômage et l'économie. Et il y a un surinvestissement des gouvernements depuis lors sur la question migratoire par le biais identitaire, parce que au fond, c'est l'un des rares thèmes sur lesquels on ne va pas vraiment les tester sur leur efficacité quand ils n'arrivent pas à faire baisser le chômage ou à avoir vraiment la main sur les grandes orientations de la politique économique.
Dans un numéro que consacrait le magazine Le 1 l'an dernier à cette question de l'immigration, le politologue Vincent Martini relevait ceci. Il parle du paradoxe des affrontements politiques en France sur l'immigration. Alors que les polémiques sur ce thème tournent à l'hystérie, les politiques mises en œuvre, elles, se suivent et se ressemblent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Christian Bertossi?
Il y a peu d'imagination parce que faire une politique d'immigration, c'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de contraintes. Je vous disais, on peut pas faire tout et n'importe quoi sur la question du regroupement familial. Aujourd'hui, l'immigration principale qui vient en France, d'ailleurs, c'est même pas un regroupement familial, c'est un regroupement de conjoints. Donc ce sont des époux ou épouses de citoyens français qui viennent en France. Ça, c'est le premier flux migratoire vers la France. On peut pas faire tout et n'importe quoi avec l'asile. Et pour revenir au début de notre discussion et à cet extrait de l'intervention d'Edouard Philippe lors de son discours de politique générale, il y a aujourd'hui la construction d'une opposition entre les bons et les mauvais migrants qui passe par la définition de ce qu'est l'asile. L'enjeu aujourd'hui, et c'était très fort dans le discours d'Edouard Philippe, c'est de dire, il y a des réfugiés, ça correspond, c'est un trésor, a-t-il dit, du patrimoine national, on doit le protéger, mais pour pouvoir le protéger, il faut débusquer les faux réfugiés. Ça, c'est un thème, par exemple, qui était très, 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 très important à la fin des années 90 en Angleterre, lorsque l'Angleterre, quand même, avait des politiques peu libérales en la matière. Donc aujourd'hui, on fait tout pour opposer réfugiés et migrants. Moi, les catégories, elles sont un petit peu floues. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre dedans, parce que finalement, les migrants sont des migrants avant de passer les frontières. Mais une fois qu'ils ont passé les frontières, même à Briançon, on voit qu'ils ont, ils sont tout à fait en droit de demander l'asile. Et souvent, ils sont reconnus comme des réfugiés.
Quand vous dites, Christophe Bertossi, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en matière de politique migratoire, est-ce que c'est aussi parce que la politique française est fortement contrainte par les règles européennes? Quand on parle de politique migratoire, on ne peut pas simplement l'imaginer en se disant que ça reste à l'intérieur des frontières nationales.
Vous avez raison, il y a un effet d'échelle dans la politique migratoire et l'Europe est aujourd'hui... idéalement, théoriquement, l'échelle optimale. Sauf que les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils sont d'accord entre eux sur l'objectif de déléguer aux pays du Sud le contrôle de leurs frontières. Donc aujourd'hui, vous avez les Européens qui aident la Libye à arrêter les flux qui passent par la Libye, hein, qui viennent du Niger et d'un peu plus au Sud. Mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, les États membres de l'Union européenne, sur une solidarité qu'il faudrait mettre en commun pour que les pays qui subissent, qui sont les portes d'entrée principales de l'Union européenne, puissent être allégés du poids de l'accueil, parce que ça implique beaucoup de moyens d'accueillir des gens, et qu'il y ait une répartition sur l'ensemble du territoire européen des gens qui rentrent. Je voudrais juste dire que on a vu l'Europe, sur ce sujet, s'effondrer, devenir complètement paralysée, sans pouvoir, en 2015, avec ce qu'on a appelé la crise des migrants. Il s'agissait de 1,2 million de personnes, pour un espace politique de 512 millions de citoyens. Au même moment, la Turquie, 80 millions, accueillait 2,5 millions de réfugiés. C'est-à-dire qu'ils accueillaient plus du double pour une population qui était à peine 15% de la population européenne.
Donc au moins autant que de crise migratoire, il aurait sans doute fallu parler, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs un certain nombre d'observateurs, de crise de l'Europe. Alors la France, puisqu'on s'est beaucoup intéressé à la politique migratoire française, la France n'est pas seulement une terre d'accueil, c'est aussi une terre de départ. Et pour les Français, jusqu'à ces dernières années en tout cas, il y avait une sorte d'Eldorado qui était le Canada. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Sauf que cette terre d'accueil ne l'est plus tant que ça.
Oui, puisque le Québec vient de mettre en application une nouvelle loi sur l'immigration qui limite assez drastiquement les entrées sur son territoire. Une mesure qui fait réagir en particulier donc les nombreux Français qui voient leur démarche migratoire annulée et qui fait réagir aussi dans le reste du Canada puisque ce pays s'est construit par des vagues successives de migration. J'ai interrogé l'historienne Laurence Cross, spécialiste de ce pays, pour lui demander quelle place occupe les questions migratoires dans l'identité et surtout dans la politique au Canada.
La base de son identité aujourd'hui, c'est la notion de multiculturalisme. Donc c'est complètement lié évidemment à l'immigration, à l'idée d'être un pays de migrants. Donc effectivement, le soutien à l'immigration fait vraiment partie de la représentation de l'identité nationale. C'est très très clair, en particulier dans le discours des libéraux. Ça fait, c'est vraiment un des piliers du Parti libéral depuis pas mal de temps et c'était complètement repris par Justin Trudeau. Mais les conservateurs sont à peu près sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas du tout de remise en cause du concept de multiculturalisme qui vraiment depuis les années 60 est devenu un peu le pilier en fait de cette définition d'identité nationale.
Et dans ce contexte donc très ouvert, comment comprendre la récente inflexion des politiques migratoires au Québec ? Y a-t-il en la matière une spécificité de cette province ?
Alors le Québec est un peu différent. Le Québec se voit en partie aussi comme une nation d'immigrants, mais il ne faut pas oublier que le Québec a une population qui est beaucoup plus ancienne, et puis surtout que c'est une population majoritairement francophone, qui est un petit peu en position d'assiégée en Amérique du Nord, et qui donc a un très grand besoin d'affirmer et de défendre son identité francophone, son héritage français, etc. Et donc là, les immigrants, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont à la fois bienvenus, mais il y a cette volonté absolument d'avoir des gens qui vont pas remettre en cause en fait la survie de la communauté canadienne française du Québec. Donc la priorité est donnée aux francophones, mais il y a aussi ce problème autour de la laïcité maintenant, puisque le Québec a longtemps été vraiment une province très très catholique. Depuis la Révolution tranquille, l'affirmation de la laïcité est très importante. Et donc, des immigrants, en particulier de régions musulmanes, qui pourraient éventuellement remettre en cause cette idée de la laïcité, peuvent être perçus comme un danger. Et on voit très bien, aussi bien que le Parti québécois que maintenant la CAQ, se positionne un petit peu là-dessus avec cette idée des valeurs du Québec autour de la laïcité. Il y a un projet de loi là qui vient de passer, la loi 21, qui va interdire les signes religieux ostentatoires pour certaines catégories de fonctionnaires, les policiers, etc. Donc quelque chose qui est assez proche du système français. Quelque chose qui est complètement pas du tout accepté, pas du tout compris dans le reste du Canada, qui perçoivent ça comme vraiment une discrimination religieuse, voire raciste.
Voilà, c'était l'historienne Laurence Cross, enseignante à l'Université Paris-Diderot et à l'Institut des Amériques.
Une réaction, Chris Aubert aussi ?
Je crois qu'il y a un effet québécois dans ces débats sur l'immigration et la laïcité, c'est vrai, qui est un thème très 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 important depuis plusieurs années au Québec. C'est une circulation par la francophonie et le lien culturel et historique avec la France, des idées et des thèmes, c'est-à-dire que vous avez des séquences qui sont très 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 proches des débats entre la France et le Québec.
Eh bien, merci beaucoup, Christophe Bertossi, d'avoir participé à cette discussion. Donc, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage que vous avez publié au CNRS. C'était en 2016, La citoyenneté à la française. Politique. C'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyrey Legras, avec à la prise de son Laurie Vachon. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. À 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 dans Du Grain à Moudre. Et dans un instant, c'est le journal de 12h30 sur France Culture.